Bonsoir sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et si je vous dis vite ma dose, je suppose que depuis quelques mois, vous pensez plus au Covid-19 qu'à une quelconque salle de shoot. Alors, peut-être que les plus anti-vax d'entre vous se sont tournés vers Covid Organics, la potion magique anti-Covid défendue par le président malgache Andry Rajoelina. Mais aujourd'hui, avec moi en studio, pour rester sur les vaccins et le Covid-19, j'ai le plaisir de recevoir trois membres du service de santé universitaire. Bonjour Axel Missud.
Bonjour.
Bonjour Tony Gendron.
Bonjour.
Et bonjour Farid Bouassoun.
Salut.
Alors, je vous laisse la parole pour nous dire tout de ces vaccins anti-Covid.
Mais allez-y, pas tout à la fois.
Bah aujourd'hui, on va briser le mystère un peu. On va essayer du moins de briser le mystère du vaccin. Parce qu'on sait qu'il n'a pas trop la cote en ce moment, le vaccin, alors que ça sauve quand même pas mal de vies. Donc l'histoire, c'est d'abord de commencer par ce que c'est qu'un vaccin, quoi. Bah, tout simplement. Donc on a différents types de vaccins. On va avoir donc les vaccins qui vont être standards, entre guillemets, si je puis dire. Donc un vaccin standard, ça va consister à l'injection d'un germe, donc soit d'une bactérie, soit d'un virus, qui va être responsable d'une pathologie, donc de façon à permettre au corps de savoir s'en défendre. Donc grosso modo, on vous ingère une pathologie, on vous ingère suffisamment de virus pour titiller le système immunitaire, mais pas assez pour vous rendre malade. Et du coup, l'histoire, c'est qu'on va mettre en contact le virus donc avec la bactérie, donc avec le corps. Donc sur le germe, il y a ce qu'on appelle une protéine de surface. Et du coup, cette protéine de surface, c'est ce qu'on appelle un corps étranger pour le corps humain, du coup. Et du coup, forcément, le corps humain, il va essayer de se défendre par rapport à ça. Parce que du coup, le corps humain, il n'aime pas tout ce qui est étranger. Donc forcément, quand il voit un nouveau corps, vous voyez quand vous vous blessez, le corps humain, il réagit. Et pour qu'à la fin, il puisse se défendre contre ce corps étranger, du coup. Donc ce vaccin, il va exister sous deux types. Il va y avoir des formes affaiblies. Donc le virus qu'on va vous injecter, il va être affaibli, donc de façon à réduire les symptômes de la maladie. Et puis aussi, il va y avoir des formes inactives. Donc le virus, donc c'est à peu près le même système, c'est juste que là, le virus ou la bactérie sont tués ou désactivés avant l'injection, et donc il n'y aura plus aucun pouvoir infectieux. Donc la différence entre les deux, c'est juste que la forme inactive, elle sera plus intéressante pour les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire pour les personnes qui ont un système immunitaire qui va être assez faible, parce que du coup, pour la forme affaiblie, il y a des personnes qui ont un système immunitaire qui est pas assez, qui est pas très coriace, qui fait que du coup, ils vont avoir plus d'effets secondaires que des personnes qui vont être entre guillemets, normales. Donc, on sait aussi qu'il y a des vaccins donc ARN messager. Donc, on sait que l'ARN messager, c'est quand on vient le titiller, ça provoque une réaction immunitaire. Donc, du coup, on s'en sert. Donc, la méthode, elle est nouvelle, mais dans la vaccination, mais pas dans la médecine, parce que le principe, il a été découvert dans les années 50. Donc, avant toute chose, avant de vous parler de vaccins d'ARN messager, etc., il faut quand même que je vous parle ce que c'est l'ARN messager. Donc, si je devais un peu imager, le corps humain, il est divisé en une multitude de cellules, que ce soit donc l'œil ou alors le foie, ou tous les organes du corps humain, ils sont tous divisés en ce qu'on appelle la petite sous-unité qui est la cellule du coup. Et donc dans la cellule, on va avoir ce qu'on appelle un noyau. Donc voilà, c'est comme si on prend une nectarine, à l'intérieur on a un noyau, si je devais vraiment comparer. Et à l'intérieur du noyau de la nectarine, si je devais encore une fois imager, on va retrouver donc l'ADN. Donc l'ADN, sauf que cet ADN, malheureusement, nous, en tant que... les médecins plutôt, le monde de la médecine, ils peuvent pas directement modifier l'ADN, c'est impossible, parce que ce qui correspond à un petit peu on peut pas modifier directement l'ADN. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir par contre modifier la copie de l'ADN qui se nomme du coup l'ARN. Et nous, c'est ça qu'on va venir modifier du coup. Donc c'est ça. Donc on va venir donc modifier donc cet ARN. On va venir rajouter du coup l'ARN du virus dans le corps humain. Et ensuite, donc le corps humain, il va avoir un corps étranger, donc il va réagir, il va venir se protéger. Et après cet ARN,
Donc du coup, quand le corps humain va réagir, il va produire de nouveaux petits ARN qui ensuite, eux, vont être, si je puis dire, photocopiés par des, encore une fois, un autre organisme cellulaire qui s'appelle les ribosomes, qu'on va comparer à des photocopieuses, et qui vont venir du coup photocopier la protéine pour qu'à la fin on puisse se défendre contre le système immunitaire. Mélissa, je sais pas si j'étais assez clair, c'est vrai que c'est un peu technique comme système. Dis-moi si je m'éparpille un peu ou si je n'ai pas été assez clair pour nos chers auditeurs.
J'invite les auditeurs à protester via nos réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas, on est connectés. Donc si vous avez des questions additionnelles pour nos ERS, hein, n'hésitez pas à nous les envoyer. Évidemment, ils vous répondront avec plaisir. Voilà, moi j'écoute avec attention malgré les bruits de couloir, puisque voilà, nous sommes en direct de nos fantastiques studios, direct de la cité universitaire. Du coup, il y a quelques travaux. Alors, je ne sais pas, chers auditeurs, si vous en profitez aussi, mais nous, ça nous secoue un peu les oreilles. Mais merci en tout cas, Farid, pour ces informations précieuses et pour toutes ces comparaisons. Et je crois, Axel, que tu veux prendre le relais.
Oui, c'est bien ça. On a également donc développé l'idée que, en fait, il y avait tout un débunkage à faire au niveau du vaccin. Il y a plusieurs types de vaccins, donc on a fait deux grandes sous-parties, une qui parle plutôt des vaccins traditionnels et une autre qui est spécifique au Covid-19 puisque c'est la situation actuelle. Mais dans les vaccins traditionnels, il y a déjà une plus ou moins mauvaise réputation qui ne date pas d'hier. En effet, il y a certains vaccins qui seraient répandus comme causant l'autisme. C'est une étude qui avait été menée en 1998, date de la Coupe du Monde du coup, par Andrew Wakefield, qui en fait ça concernait surtout le vaccin rubéole au rayon et rougeole, qui en fait était censé causer l'autisme. Et en fait, ça a été pendant longtemps cru. À tort, parce que 4 ans plus tard après cette étude, d'ailleurs, des études danoises ont démontré que c'était faux. Et ça a été redémontré en 2019. Donc en fait, ça a été démontré plusieurs fois, mais il y a eu un lien de causalité qui a existé. Et où on s'est dit, en fait, il y a un lien de causalité. Alors qu'il s'est avéré que non, en réalité. C'est juste un lien de hasard, si l'on peut dire. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques qui prouvent qu'il y a un réel lien entre l'autisme en tant que tel et le vaccin. Après, il y a également les maladies neurologiques comme Guillain-Barré et la sclérose en plaques. On croit qu'en fait, certains croient que les vaccins déclenchent ces pathologies, alors qu'en fait, non, elles réveillent quelque chose qui était déjà endormi. En général, ceux qui ont une sclérose en plaques ou qui développent un Guillain-Barré ne l'avaient pas directement. C'est-à-dire, ça n'a pas été causé par le vaccin. Ce n'est pas le fait d'avoir injecté le vaccin qui va rendre la personne malade. Ça va stimuler son système immunitaire et ça, en fait, c'est juste une réaction qui, tôt ou tard, serait arrivée avec ou sans le vaccin. Il y a également la question du fait qu'il y ait donc de l'aluminium dans les vaccins. Alors, il y a moins d'aluminium dans un vaccin que dans un emballage de sandwich, ce qui amène également à poser une question, parce qu'en fait, l'aluminium, il a un rôle particulier, c'est titiller, comme l'avait dit Farid, le système immunitaire. On ne l'utilise pas dans tous les vaccins, on l'utilise uniquement quand c'est nécessaire, en réalité, parce que certaines personnes, comme l'a dit Farid, donc, sont plus sensibles que d'autres, et d'autres, en fait, c'est plus dur de titiller le système immunitaire pour obtenir une réaction afin de mieux les protéger. Donc l'aluminium sert à ça, mais c'est vraiment en micro-micro-dose. Enfin, ça n'a pas de quoi causer de gros dégâts.
C'est ce qu'on appelle du coup un adjuvant.
Merci. Et après, donc il y a également, tout le monde dit oui, mais le vaccin, c'est qu'une histoire de lobby. C'est un moyen de se faire beaucoup d'argent pour Big Pharma et l'industrie pharmaceutique en général. Alors, en réalité, c'est pas si vrai, parce que la prévention rapporte moins qu'un traitement de manière régulière, mais soigner des morts, ça, c'est pas très efficace. Et enfin, le deuxième point, c'est que, certes, pour certains, les rappels sont encore une histoire d'argent. Or, c'est à tort, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de prévoir, encore une fois, le fait d'être malade. Et au niveau de la rentabilité, ça ne se tient pas. Au niveau des chiffres, dire « oui, mais faire plus d'injections, ça rapporte plus d'argent », sur la durée et sur la quantité, ça ne se tient pas du tout. Il y a également l'idée, donc pourquoi injecter les vaccins chez les enfants sous prétexte qu'ils sont purs, qu'ils ne connaissent pas la maladie et qu'ils vont très bien. Les enfants, ça dépend. Parce que si leur mère fumait pendant qu'ils étaient dans les 9 mois de grossesse ou qu'ils buvaient, l'enfant n'est pas si pur que ça. Et donc en fait, c'est vraiment du casuistique, c'est du cas par cas. Et l'histoire de la pureté, en fait, n'a rien à voir parce que c'est juste à but de protéger l'enfant. Certains pensent que parce qu'ils sont vaccinés, ils n'ont pas à faire vacciner leurs enfants. Mais en réalité, bah, c'est pas parce que nous sommes protégés, même les femmes enceintes sont protégées, que l'enfant l'est systématiquement. D'où cette nécessité-là. Et enfin, on dit qu'il y a certaines maladies qui ont presque disparu. Oui, mais elles ont presque disparu. Donc, elles sont toujours là dans certains endroits du globe. Et c'est toujours préférable quand elles ne sont pas éliminables. C'est le cas surtout quand elles sont très contagieuses, comme la rougeole ou d'autres maladies, de pouvoir justement continuer à s'en prémunir pour éviter une recrudescence.
Moi, je vais attaquer la partie vaccin Covid-19, puisque on a vu que nos vaccins standards ont une réputation plus ou moins mauvaise selon les cas, et souvent c'est plus de la méconnaissance des vaccins qu'autre chose. Et pour le cas du Covid, elle a ses propres rumeurs et appréhensions autour. Et là, globalement, on va estimer qu'il y en a environ 4 qui existent. La première, alors c'est pas forcément ces interrogations qui sont malgré tout légitimes. Hein. Il y a aucune idée de dire que si vous pensez ça, vous êtes un anti-vax monstrueux et que tout ça, vous êtes un méchant. C'est pas du tout ça. C'est des interrogations qui sont légitimes et notre rôle aussi, c'est d'expliquer simplement. La première, ça a été que les vaccins étaient produits très vite, nettement plus vite que les autres. C'est quand même très louche. Alors c'est vrai, ça a été produit excessivement vite par rapport aux vaccins standards, mais il y a quand même des raisons. Alors je vais vous en donner. En vérité, il y en a au moins 4. Tout d'abord, c'est que c'est une réponse à la pandémie. Je vous rappelle qu'on est dans une pandémie mondiale, donc on est dans un cas d'urgence. Normalement, un vaccin ou les médicaments en général passent par ce qu'on appelle les 4 phases d'élaboration. Ces 4 phases d'élaboration, donc, c'est une approche au fur et à mesure pour déterminer l'efficacité et le respect de la balance bénéfice-risque du médicament vis-à-vis du patient, vis-à-vis de l'homme. Ces 4 phases, normalement, elles sont faites une après l'autre. Là, dans le cas présent, les 4 phases se sont chevauchées. Pourquoi ? Parce que bah, tout à coup, il y avait des moyens, parce que tout à coup, il y avait tout le monde qui s'y mettait, ce qui faisait que ce qu'on ne peut pas faire normalement en termes de recherche standard dans une situation standard, là, on pouvait parce qu'en fait, on avait le temps, les moyens, les capitaux, la population, les populations, les gouvernements qui travaillaient beaucoup plus main dans la main. Le lien public-privé était beaucoup plus fort à ce moment-là. Il y a également une autre donnée à prendre en compte qui est certes un peu cynique mais qui est logique. On est en pleine pandémie, des malades on n'en manque pas malheureusement. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir la matière première entre guillemets pour vérifier aussi l'efficacité des vaccins. Alors dit comme ça, on pourrait penser que je m'amuse à dire qu'on fait des tests sur la population. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit par là, c'est que comme on a beaucoup de malades, on a aussi beaucoup de retours et de données autour de la maladie. Et ça c'est très important. Les moyens financiers que j'ai cités également avant, avec la mobilisation scientifique qui est intense, la recherche forcément, quand vous avez tous les pays du monde qui se lancent à corps perdu là-dedans, les résultats sont forcément bien plus efficaces. Hein. Et enfin, une dernière donnée qui est importante, c'est que il se trouve que le Covid-19 a la bonne idée d'avoir été ses proches de son virus cousin, qui est le SARS-CoV-1 que vous avez peut-être connu, qui est né en Chine au début des années 2000. Qui était responsable donc des syndromes de respiratoires aigus sévères, donc le SRAS. Et il se trouve qu'en fait, il a des protéines de surface qui sont similaires avec notre Covid-19, ce qui fait qu'en fait, on part pas de zéro. On a déjà un début de séquençage génétique qui a commencé, ce qui fait qu'on part pas de zéro et donc on peut accélérer la recherche. On a eu également l'ARN messager modifie l'ADN. Donc, je vais revenir sur ce qu'a dit Farid, qui était très juste. En fait, dans l'imaginaire des gens, ARN et ADN, c'est la même chose. Non. L'ADN, c'est effectivement contenu dans le cœur du noyau. Mais on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher au noyau. Donc, du coup, la cellule, pour créer ses protéines, pour envoyer un message, elle crée une copie qui s'appelle l'ARN. Cet ARN ensuite passe dans le ribosome qui va photocopier l'information. Cette information va se transformer en protéine qui va finir dans le système immunitaire. Bah là, en fait, on fait la même logique. On ne peut pas toucher à l'ADN, donc dans ce cas-là, on va envoyer un ARN, qui est donc une simple copie, un simple messager, qui va aller dans la cellule pour utiliser la photocopieuse, donc le ribosome, pour créer la protéine. Mais on ne peut pas toucher à l'ADN, donc il n'y a pas de modification génétique comme on l'entend. On a eu également l'AstraZeneca provoque des thromboses. Alors, là, il faut comprendre quelque chose d'important. Un vaccin, c'est un médicament. Chaque médicament a des effets secondaires, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça. On parle ensuite de la principe de, ce que j'ai dit plus tôt, la balance bénéfice-risque. En gros, on attend que le bénéfice attendu du médicament soit supérieur au risque qu'il présuppose. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, en fait, la balance bénéfice-risque, elle est positive. Mais on s'est rendu compte que passé 55 ans, en moyenne, les risques étaient plus faibles que en dessous des 55 ans. L'explication, elle est assez simple, c'est que le système immunitaire des plus jeunes, en dessous de 55 ans, est naturellement plus efficace que ceux d'au-dessus de 55 ans. Du coup, comme le système immunitaire réagit plus violemment, il y a plus de risques de thrombose. Donc c'est pour ça que, par principe de précaution, on a décidé de passer AstraZeneca uniquement aux plus de 55 ans. Il faut se dire que si on n'avait qu'un seul vaccin, que c'était l'AstraZeneca, il y a de bonnes chances que ces règles auraient été différentes. Là, en l'état, on en a plusieurs, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre. Enfin, il y a pourquoi se faire vacciner alors qu'avec le vaccin, on peut quand même tomber malade. Aucun vaccin, peu importe la maladie qu'on vaccine, n'est efficace à 100%, c'est comme ça. On peut pas, pour une simple raison, c'est qu'on a une unité de corps et de variations génétiques en nous. Les 4 personnes présentes dans le studio ici sont fondamentalement différentes d'un point de vue génétique. Malgré tout, on a tous une base commune et des variations qui font qu'on est plus ou moins sensible à telle ou telle pathologie. Néanmoins, le but d'un vaccin, et donc là dans le cas du Covid, c'est de réduire très fortement le risque d'être atteint de la maladie, et surtout également de réduire les formes graves de la maladie. De ce fait, être vacciné ne nous protège pas à 100% de la maladie, par contre, elle augmente fortement le risque réduit fortement plutôt le risque d'être atteint d'une forme grave de la maladie, parce que c'est ça en fait hein, qu'on vise. Le Covid, il a un taux de mortalité qui est légèrement supérieur à 1%. Du coup, l'objectif, c'est de veiller à éviter toutes ces formes graves qui peuvent conduire au décès. C'est pour ça qu'en fait, on préconise au maximum de vacciner et de pas se laisser avoir par l'image comme quoi, bah, en fait, se faire vacciner, ça réduit pas le risque de mortalité. Et à cela, si cette image ne suffit pas, je vais vous en donner 2 autres. La première, c'est, vous êtes peut-être au courant que la ceinture dans la voiture est obligatoire. Au risque de vous surprendre, et pour ceux qui ont déjà eu un accident de voiture, la ceinture de sécurité ne vous protège pas nécessairement de la mort. Par contre, elle augmente grandement vos chances de vous en sortir. Pareil, je vous rappelle que les moyens contraception sont pas fiables à 100%. Est-ce que ça vous empêche pourtant de les utiliser par sécurité ? C'est la même logique en fait avec le vaccin. On est dans la même logique, c'est juste que le vaccin n'a pas la même image que la ceinture de sécurité ou les traitements contraceptifs qui existent. Donc voilà, voilà comment conclure les idées reçues hein, autour de la vaccination pour le Covid-19.
Eh bien, merci à vous. Je ne résiste pas aussi au plaisir de rappeler à nos auditeurs qu'il y a à Tours l'équipe Biomap, équipe de recherche Université de Tours, INRAE, qui travaille actuellement sur un candidat vaccin par voie nasale. Voilà, donc on peut renvoyer les auditeurs à un article qui se trouve sur le site de l'Université de Tours, qu'on pourra aussi ajouter en lien de ce podcast. Est-ce que vous en aviez entendu parler tous les trois de ce candidat vaccin par voie nasale ?
Alors moi je me souvenais qu'il y avait effectivement des travaux là-dessus, je ne savais pas qu'à Tours on travaillait justement dessus, mais je me rappelle qu'effectivement il y avait des travaux sur d'autres méthodes pour injecter un vaccin. Effectivement la voie nasale en était une, mais j'ignorais qu'à Tours on travaillait dessus, donc cocorico plus.
Voilà. Et aussi peut-être une question, est-ce que vous avez dans les étudiants et étudiantes qui viennent au SSU des craintifs du vaccin ? Est-ce que vous en avez qui viennent vous voir
Alors, il y en a toujours. Dans le cas du Covid, en fait, c'est beaucoup plus compréhensible au vu de la situation et de tout ce qui a été dit hein, sur la rapidité, tout ça. C'est pour ça qu'encore une fois, le fait de se méfier des vaccins ne fait pas de vous nécessairement un anti-vax dangereux. L'idée, c'est effectivement logique de se poser des questions. Et après, la meilleure façon d'éviter ça, c'est de poser des questions à son médecin, puisqu'en théorie, c'est lui qui va savoir cette information, qui va pouvoir vous rassurer. Ça arrive effectivement qu'au SSU, on ait des questions qui se posent autour de la vaccination. Pas tant que ça, parce que le retour que j'ai globalement, c'est que la vaccination chez les jeunes adultes est plutôt validée, plutôt acceptée. Il n'y a pas beaucoup de craintes autour. Il y a des questionnements, mais ça va pas plus loin en réalité. On n'est pas sur une opposition plus ou moins franche. Donc à ce niveau-là, non. Après, les étudiants posent des questions, ils veulent comprendre, parce que on a beau nous en parler depuis 3-4 mois, en réalité, l'ARN messager, ça reste quelque chose qui n'est pas simple à appréhender. On n'est pas sur un vaccin standard comme on a pu apprendre au collège et au lycée. Donc il y a des questions qui se posent, mais globalement, on n'a pas de soucis particuliers à ce niveau-là.
Ouais, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le meilleur ami de la peur, c'est le manque de connaissances. Et c'est vrai que du coup, comme tout va super vite avec le Covid, bah, les gens n'ont pas forcément la connaissance du vaccin. C'est vrai que ça peut faire un peu peur. On voit une piqûre, ils nous mettent un truc dans le corps, il y a de l'aluminium, un virus, le Covid, mais pourquoi ils nous mettent ça? Donc c'est vrai que le mieux qu'on a peur d'une chose, c'est de s'y renseigner. Et puis une fois qu'on est renseigné, on se rend compte que finalement, c'est pas si terrible et qu'au contraire, ça sauve beaucoup de vies et que c'est important quand même les vaccins.
Et de plus, il y a également beaucoup de stéréotypés qui sont véhiculés, notamment aujourd'hui, où en fait, on se rend compte qu'il y a plus d'infox que de réelles infos en réalité. C'est pour ça, d'où l'importance en fait, de se renseigner sur les bons sites qui sont fiables, donc notamment les sites d'État ou même les sites universitaires. Il y a plusieurs universités qui ont des sources fiables dessus, beaucoup plus fiables que ce qu'on peut entendre sur des grandes radios avec des spécialistes où on ne connaît pas trop le cursus et qui en fait propagent plus la peur et la méconnaissance que la véritable connaissance.
Des exemples de sites justement, Axel ?
Alors il y a le site vaccininfo.org. Il y a également le site santé, vaccininfo santé et santé Service France. Ah, comment ça s'appelle ?
Pas tout.
Santé publique France, voilà.
Ah oui, Santé publique France, qui est effectivement une sommité au niveau national sur la question des préventions.
Il y en a 3-4 qui sont assez, en fait, trouvables. Si on met infovaccin.org, on a tous les 3 premiers sites qui apparaissent.
Et alors, si nos auditeurs, ça y est, sont convaincus des bienfaits de la vaccination anti-Covid, est-ce que vous voulez nous rappeler comment on procède si on veut se faire vacciner ? Est-ce que le SSU propose, je vais dire de se faire piquer, mais n'exagérons rien, mais est-ce que le SSI a un dispositif de vaccination ?
Alors, non. En fait, non. On n'est pas le site premier pour se faire vacciner. L'idéal reste encore la médecine en centre-ville. Je pense notamment, il y a différents centres qui existent. Alors, les vaccinodromes, c'est moins le cas, mais en tout cas, il y a différents centres de Tours qui permettent la vaccination. L'explication est simple, c'est qu'en fait, la méthode de stockage de ces vaccins n'est pas simple. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas le faire nécessairement n'importe où. L'idéal, plus simplement, à moins que vous l'ayez en parlé, mais...
Bah, t'as l'air lancé, vas-y Tony, on te suit.
Si je dis une bêtise, tu me reprends, d'accord. L'idéal reste globalement, alors quand on a plus de 18 ans, les règles sont un tout petit peu différentes pour moins de 18 ans, mais on va en reparler. En gros, l'idéal, ça reste d'aller sur VitmaDose, simplement, pour trouver une plage horaire et un lieu le plus adapté selon où on habite. Alors à Tours, il y en a quand même plusieurs. Hein. Et on prend rendez-vous avec ce site pour pouvoir se faire vacciner. On peut également prendre rendez-vous simplement avec son médecin, en fait, pour que lui se procure le vaccin et vous fasse vacciner. La vaccination, elle se fait donc avec le vaccin Pfizer ou Moderna, donc pour les moins de 55 ans. Donc, normalement, les étudiants, ils sont à peu près en cette catégorie-là. Et ça nécessite 2 doses espacées d'un mois environ. Donc il y a 2 rendez-vous à prendre qui se font normalement dans la foulée. C'est-à-dire on prend le premier et le deuxième rendez-vous. Il y a une exception quand même à noter. C'est si on a contracté le Covid, il y a plus de 3 mois, il n'y a qu'une seule injection à vaccin au lieu de 2. C'est le seul cas particulier pour ça. Enfin, si on a moins de 18 ans, il y a 2 cas de figure. Alors, soit on a des pathologies pouvant augmenter le risque de forme grave des Covid. Donc les 16-17 ans peuvent se faire vacciner dans les centres de vaccination et chez son médecin. Si on n'a pas de pathologie, donc normalement, la vaccination devrait commencer vers mi-juin. On n'a pas encore tout à fait les dates définies à ce niveau-là. Donc, en tout cas, à l'élaboration de ce dossier, on n'avait pas encore les dates définies. Normalement, ça devrait arriver incessamment sous peu. Il me semble qu'on vise normalement vers le 15 juin. On ouvre enfin la vaccination jusqu'aux 15 ans. En dessous, ils ne savent pas encore exactement au niveau collégien, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vaccine ou pas. Ils ne savent pas trop puisque le Covid a beaucoup moins d'effets dans cette population-là. Donc, en attente, il y a encore un peu stand-by. Mais en tout cas, pour l'immense majorité des étudiants qui ont entre, au plus tôt, ils ont 17 ans et souvent ils ont 18 à 25 ans pour les plus vieux à l'université, ils peuvent se faire vacciner dès maintenant simplement avec VitmaDose. L'avantage de VitmaDose, par rapport à Doctolib et autres, c'est qu'en fait, Doctolib a ses plages médecins. Il y a un autre site dont j'ai perdu le nom qui a ses plages médecins. VitmaDose regroupe tout le monde. Donc on a tout le monde en même temps. C'est ça qui fait que c'est plus intéressant de passer par eux.
Et ce qui est cool, c'est que du coup, après le vaccin, enfin après soit une dose, soit les 2 doses, comme disait Tony, c'est qu'à la fin, on a ce qu'on appelle un pass sanitaire. Et ce pass, du coup, bah, avec la réouverture des activités, donc reprenez-moi si je dis une bêtise, mais je pense que le pass sera demandé, hein, notamment pour la réouverture des restaurants, si on veut manger à l'intérieur, je crois que ce sera privilégié aux personnes qui auront un pass sanitaire. Idem pour les voyages, je crois que le pass sanitaire, ça évite de faire des tests PCR.
Oui.
Qui sont relativement assez chers pour les pays, donc autres que la France, comme pour l'Italie, je crois, ou l'Espagne. Et donc le pass sanitaire, c'est vrai que ça confère beaucoup d'avantages. Donc c'est pour ça que c'est quand même cool de se vacciner.
Eh bien, chers auditeurs, chers invités, je vous propose de faire une pause musicale dans cette méridienne. Et pour rester dans la thématique de l'université, on va écouter Jacqueline Taïeb, la fac de lettres. C'est une vieillerie, mais c'est pas mal. Et je ne moude pas mon plaisir de diffuser ça sur Radio Campus Tour. On se retrouve tout de suite après.
Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de Cent Ans. Ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où il n'y a pas de jambon. Les étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à la vie où je serai au studio, sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Boutonneux qui parlent de leur âme, et avec de grands gestes, chacun fait son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers, avec fierté peut-être, mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la vague de l'être? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la vague de l'être? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la vague de l'être? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la vague?
Mais oui, qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres, nous chante Jacqueline Taïeb. Vous écoutez Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne, avec moi en studio, trois membres éminents du service de santé universitaire de l'Université de Tours, Axel Missud, Farid Bouassoun et Tony Gendron. Alors peut-être qu'on peut quand même mentionner les effets secondaires possibles de ces vaccins contre le ou la Covid.
Alors du coup là, encore une fois, ça va varier entre les personnes. Il y a des personnes qui pourront donc ne rien avoir du tout. Donc comme ça a été mon cas, moi j'ai pas eu grand chose. Et d'autres personnes, ça va être un peu différent. Donc vous pourrez avoir certaines nausées, des maux de tête, des sortes de froid, par exemple comme un rhume ou alors des choses comme ça. Donc rien de bien méchant du tout. C'est comme si on avait contracté une sorte de petit rhume ou une petite grippe ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, vous pouvez ne rien avoir. Ça va dépendre de votre système immunitaire et de comment vous réagissez au vaccin du coup.
Oui, par exemple, à titre d'information, ma compagne, quand elle a été vaccinée, elle a eu une douleur locale au niveau du bras, au niveau de la zone d'injection, une douleur qui n'est pas partie aussi vite que prévu, c'est-à-dire elle a mis presque une semaine à partir. Moi, j'ai eu mes deux doses, j'ai rien senti, en fait, concrètement, je me suis même posé la question si on m'a vraiment vacciné, en fait, parce que vraiment, je n'ai vraiment eu aucune douleur. Donc c'est vraiment propre à chacun, hein, mais on est vraiment sur les symptômes standards de n'importe quel vaccin, hein, rien de particulier à ce niveau-là à dire. Encore une fois, de toute façon, si jamais les effets secondaires persistent, la première chose à faire, c'est de contacter son médecin, de prendre rendez-vous avec son médecin. Pour l'immense majorité des cas, les difficultés, ce sera plutôt effectivement des douleurs locales au niveau du point d'injection et les symptômes habituels, les nausées, les maux de ventre, enfin des
grande
choses
qu'on fatigue.
Trouve, quoi. Oui, voilà.
Oui, voilà. Et surtout à partir de la deuxième dose, apparemment, ça a été recensé plus fréquemment. Mais c'est pas grave. Si les effets ne durent pas plus de 3 jours, il n'y a pas trop à s'alarmer.
D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque vous faites vacciner, normalement, après votre l'injection du vaccin, on vous demande de rester 15 minutes dans le centre de vaccination, justement parce que les plus gros risques qu'on peut avoir, en fait, ils s'annoncent très très vite. Donc vraiment, les 15 premières minutes, c'est pour ça qu'on vous conseille de rester, enfin, on vous demande de rester d'ailleurs les 15 minutes à post-injection dans le centre avant de partir.
Et pour les personnes du coup qui ont un peu la phobie des piqûres ou des vaccins ou des choses comme ça, pour le coup, ce vaccin il fait vraiment vraiment pas mal, vraiment pas. Moi quand j'ai été piqué encore une fois pour mon expérience, sur le moment j'ai vraiment rien senti. D'habitude on vous dit toujours ça fait pas mal et puis une fois qu'on y est ça fait un peu mal. Non là pour le coup ça fait vraiment rien, donc même pas la peine de ramener l'helm là ou des choses comme ça. Vraiment ce vaccin-là il fait vraiment pas mal. Donc pour toutes les personnes un peu phobiques, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec une prise de sang ou choses comme ça. Celui-là il fait vraiment vraiment pas mal.
La technique, si vous voulez pas avoir mal lorsqu'on vous pique, c'est regarder ailleurs, discuter avec la personne, et puis vous pouvez voir, ça passe. Il suffit juste qu'on change le point d'attention. Ça marche avec les enfants, ça marche avec les adultes.
Hein. Ah, donc peut-être juste pour préciser pour nos auditeurs, les patchs MLA ou la crème MLA, c'est un antidouleur. Enfin, comment dire, ça anesthésie localement pour ne pas sentir la terrible piqûre qu'on va vous faire. Donc là, on a trois piqués, si j'ose dire, dans ce studio. Donc voilà, vous êtes toujours en vie, vous avez l'air de vous porter bien. Donc...
Et je capte pas mieux la 5G, en fait. Ah ouais. Je suis un peu déçu, mais je capte pas mieux la 5G.
Et mon téléphone, il reste pas collé à ma piqûre, je suis dégoûté. Je pensais vraiment que ça allait rester énorme.
Alors, en fait de piqûres, justement, peut-être voulez-vous nous rappeler aussi le calendrier vaccinal. Alors, il y en a d'autres des vaccins qu'on est censé faire régulièrement, sauf si on est de dramatiques anti-vax.
En effet, quand on approche du coup de l'âge des 25 ans, il faut vérifier parce que quand on a 25 ans, on doit faire le rappel.
Ans. Non, c'est ça.
Entre autres, mais il y a également le DTP à faire, donc le vaccin tétanos, polio et...
Diphtérie.
Merci. Diphtérie. Donc, il est à faire chez son médecin. Et pour les femmes, sachez que c'est gratuit avant l'âge de 19 ans pour se faire vacciner contre le papillomavirus. Ah, papillomavirus.
C'est important de prendre en compte donc les deux vaccins naturellement, mais je pense à quand on parle du DT polio, pour revenir à une des choses qui a été dite sur le fait que les vaccins sont un moyen de faire de l'argent pour Big Pharma, faut quand même se rendre compte que le coût de l'injection du DT polio, donc DT polio, on rappelle, c'est un vaccin pour trois maladies différentes, mais on va se focaliser juste pour le tétanos. Tétanos, c'est une maladie qui tue encore. Il faut savoir que le coût d'un vaccin type DT polio, au niveau de la sécu, on est en dessous des 20 euros en réalité pour une injection. Le prix de prise en charge médicale d'une personne atteinte de tétanos qui a besoin d'être hospitalisée, et quand elles sont hospitalisées en général c'est parce qu'elles sont pas vaccinées, c'est d'ailleurs pour ça que souvent par sécurité on vaccine les gens à l'hôpital quand ils ne savent pas et qu'ils ont eu un accident ou il y a eu un contact avec de la terre et une plaie. On a tendance à facilement les vacciner par sécurité, le coût revient sans problème à la dizaine de milliers d'euros, sans aucun souci, parce qu'en fait une hospitalisation ça coûte très 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 cher. Et encore une fois, c'est pour vous dire que le vaccin est un moyen qui permet de réduire beaucoup les dépenses publiques en termes de santé, contrairement à l'image qu'on peut en faire. Et si je devais garder quelque chose, quand j'étais à l'école d'infirmier, j'ai eu un jour un pharmacien qui était venu, un professionnel justement... qui travaillait aussi sur tout ce qui était virologie. Et en fait, il nous disait à la formation que si un jour l'humanité devait perdre toutes ces catégories de médicaments qui existent, sauf une, s'il fallait en garder une seule, il faut à tout prix que ce soit les vaccins, parce que c'est celle qui sauve le plus de monde sur Terre en continu. On perdrait tout le reste, hein, les antibiotiques et tout, il n'y a pas de problème, mais en fait, s'il faut en garder une, il faut que ce soit les vaccins. Donc voilà, je pense que c'est à garder en tête.
Voilà. Eh bien, merci, merci beaucoup à vous, chers invités du service de santé universitaire de l'Université de Tours, hein, Farid Bouassoun, Axel Missud et Tony Gendron. Voilà, donc j'espère que peut-être que c'était la dernière émission de cette année.
A priori, c'est la dernière, mais on viendra sans problème l'année prochaine si on est toujours invité.
Ah bah, avec plaisir. Hein.
Ah bah, pas de problème,
vous avez entendu, hein, les auditeurs, ils veulent revenir. Donc on le note dans nos agendas, le retour du service de santé universitaire dans cette méridienne en septembre. Voilà, il me reste à vous remercier à nouveau d'être venu ici et nous allons écouter tout de suite dans cette méridienne Areski et Brigitte Fontaine, c'est normal. Voilà, on se retrouve tout de suite après. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
La la.
Mais...
La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un
peu? Écoute, oui. Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la.
Mais
oui.
Du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la
la la la la la la la la la la la. Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais,
le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et c'est tout. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Brigitte Fontaine et Areski sur Radio Campus Tours. Voilà, c'est normal, vous écoutez toujours La Méridienne. Chers auditeurs, je vous propose à présent d'écouter une chronique de nos fabuleux médiathécaires de la bibliothèque municipale de Tours. Et nous allons donc écouter une chronique BD, Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie chez Delcourt.
Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, bah, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, je vois bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
C'est une BD. J'en lis pas beaucoup. Donc je l'ai choisi soigneusement auparavant, donc je suis rarement déçu. Et ben là, ça a marché. Je ne suis pas déçu du tout, bien que le dessin, ça pourrait sembler important lorsqu'il s'agit d'une bande dessinée, le dessin ne m'est pas du tout convaincu. C'est un trait qui n'est ni suffisamment rond, ni suffisamment raide. Enfin bon, ça me branche pas. Malgré tout, les personnages et les visages sont bien croqués, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, donc de personnages qui ont vraiment existé et dont certains sont toujours vivants du reste. J'en viens au fait, il s'agit de une histoire vraie, Les Amants d'Hérouville, donc de Yann Lekelec et Romain Ronzeau, publié chez Delcourt dans la collection Mirage. Et il s'agit un petit peu, à travers l'histoire d'amour qui a lié Michel Magne à sa seconde femme, de produire une histoire de son studio d'enregistrement mythique qu'il a construit à Hérouville. Alors Michel Magne, compositeur qui a commencé dans l'avant-garde artistique de la musique contemporaine des années 50, qui est devenu ensuite un compositeur de musique de film star. Donc pour mémoire, il a fait la musique de la série des Angéliques dans les années 60. Il a également signé des musiques pour Georges Lautner, pour Costa Gavras, donc les Tontons Flingueurs. Costa Gavras, il a fait Compartiment Tueur et un autre film, mais je ne sais plus lequel. Donc il a vraiment multiplié les collaborations avec Vadim également. Enfin, on le retrouve presque partout à l'époque. Tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Cela dit, bon, alors, on insiste sur le côté excessif du personnage. Alors, Césus, c'était un homme qui était pas commun, hein, qu'il était danseur, il était excellent musicien lui-même. Il peignait, il était artiste peintre. Ça, je l'ai découvert à travers cette bande dessinée. Et donc, excessif en tout, il a voulu aussi pour son studio d'enregistrement faire quelque chose d'absolument unique, de très innovant. Et de fait, donc c'est un château qu'il a acheté pour une bouchée de pain ou presque avec un copain à lui, dont il s'est retrouvé seul propriétaire au bout de quelques années, puisque son ami est décédé dans un accident de voiture. Et donc, de ce château, il a fait le nec plus ultra de la technique d'enregistrement, donc avec des consoles multipistes, avec des chambres d'écho. Il avait vraiment travaillé les choses à un point tel que, je crois que c'est Georges Lautner qui racontait qu'il avait fait complètement, il avait installé une semelle de verre sous le soubassement du château pour limiter les vibrations, enfin des trucs complètement délirants qui sont bien en accord avec le personnage qui... lui-même a composé pendant 10-15 ans, pratiquement jour et nuit, des musiques. Il en était jusqu'à, je ne sais plus, 15 ou 20 partitions pour le cinéma par an. Alors, c'est là aussi une des limites de la BD qui est très documentée. D'ailleurs, il y a la caution, on va dire, de Marie-Claude Magne, qui est dans sa veuve, qui a participé à l'établissement de ce volume. Il y a malgré tout quelques petites erreurs et imprécisions, notamment dans la discographie, bon, rien de très grave, et aussi cette tendance à un petit peu idéaliser le personnage, parce qu'il avait des lieutenants, notamment Bernard Gérard, qui a aussi beaucoup composé pour Lautner, et je me souviens que Jean-Michel Bernard, qui est aussi compositeur de musique de film, un grand copain de Gondry qui a composé toutes ses musiques jusqu'à Soyez sympa, Rembobiné, qui me disait que Michel Magne, en fait, il s'était attribué la paternité de beaucoup de partitions qu'en fait des nègres composaient pour lui. Mais quand on voit le volume qu'il était censé produire, ça paraît à peu près... Enfin, oui, on comprend qu'il ait difficilement pu faire autrement. Donc, excessif en tout, il a voulu le meilleur pour ses invités, parce que voilà, les musiciens qui venaient, ils venaient des quatre coins du monde. Hein. Il y a les plus grands à l'époque du rock progressif, il y a le Grateful Dead qui a fait un concert assez mémorable là-bas, là, je ne vous dis pas plus, mais il y a Pink Floyd, il y a Johnny Hallyday, David Bowie, T-Rex, qui a Marc Bolan qui, je crois, a inauguré les studios. Gong, Elton John, bon, enfin voilà, il y en a eu d'autres. Ils étaient logés aux frais de la princesse. Ils buvaient du vin, mais c'était pas du cubi de la villageoise, hein, c'était du mouton Rothschild. Enfin, c'était pas rien. Du coup, y a eu quelques problèmes de sous qui se sont vite posés. Que Magne n'a pas été en capacité, parce que c'était pas un gestionnaire, c'était un rêveur. Donc, il a peu à peu perdu l'emprise sur son petit paradis, en quelque sorte. Et l'histoire se finit de façon très tragique, puisque n'ayant plus d'issue, donc Michel Magne s'est suicidé. Et du coup, on reste sur une note un petit peu amère parce que après avoir vu toute cette époque enchantée, tout cet état de grâce, cet âge d'or, on se dit que finalement les contingences matérielles elles reprennent le dessus sur le rêve et c'est toujours un petit peu triste. Néanmoins, l'histoire est belle. Et je vous invite à la découvrir donc grâce à cette BD qui est vraiment très très bien fichue et dont la narration est très bien construite également. Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie, de Yann Lequellec et Romain Ronzeau chez Delcourt. Ils ont publié également chez ce même éditeur une BD que vous pourrez également retrouver dans les rayons de la bibliothèque municipale de Tours, une BD sur le air guitare.
Oui, bonjour. Alors, c'est la Bibliothèque Municipale de Tours, sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la Bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, je vois bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la Bibliothèque Municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Donc je vais vous présenter Là où chantent les écrevisses de Delia Owens aux éditions Le Seuil. Donc l'histoire se déroule aux États-Unis, en Caroline du Nord, à deux périodes différentes. Donc d'abord en 1952 et parallèlement en 1969. Donc c'est l'histoire d'une enfant nommée Kia, de son vrai nom Catherine Danielle Clark, âgée de 6 ans. Elle vit avec sa famille dans un marais près de la ville de Barclay Cove, sous la coupe d'un père alcoolique et brutal. Très vite, la mère de Kia s'en va pour ne plus jamais revenir. Elle fuit son mari violent et abandonne ses enfants sans se retourner. Donc la situation devient vite très lourde pour les enfants qui, un à un, vont partir eux aussi. Et Jody, le grand frère de Kia et son protecteur, s'en va aussi pour tenter une vie meilleure ailleurs. Donc Kia se retrouve seule avec son père, qui lui aussi s'absente de plus en plus. Au contraire, Kia, elle ne pense jamais à quitter son foyer, puisqu'elle est beaucoup trop attachée au marais, elle est trop jeune, elle n'a pas d'éducation, et aussi sûrement la peur de l'inconnu l'en empêche. Donc lorsque son père ne revient pas, elle n'a plus d'autre choix, elle doit apprendre à se débrouiller, seule, dans ce lieu magnifique qu'est le marais, mais aussi très hostile. Les services sociaux viennent plusieurs fois afin de l'obliger à aller à l'école, donc elle y va une journée, mais face aux moqueries des autres enfants, elle décide de ne plus revenir et de se cacher pour fuir les services sociaux. Donc forcément, elle ne sait ni lire ni écrire et sans argent, elle finit très vite par souffrir de la faim. Donc à Barclay Cove, elle est considérée comme une marginale, une outsider. Et d'ailleurs, on la surnomme la fille du marais. Et seul le couple Jumping et Mabel, qui eux aussi sont rejetés par la société car ils sont noirs dans une Amérique des années 50, lui fournissent des vêtements et de la nourriture dès qu'ils le peuvent. Donc un jour, Kia rencontre un garçon de quelques années de plus qu'elle. Et malgré sa timidité et son côté sauvage, l'envie de sociabiliser va être beaucoup plus forte et aussi l'envie de fuir cette solitude. Donc il va notamment lui apprendre à lire et à écrire et à surmonter cette solitude. Il lui transmet sa passion pour la science et la poésie. Mais bientôt, c'est au tour de Tate de s'en aller parce qu'il va faire ses études de biologie dans une autre ville. Et malgré sa promesse de revenir, il ne reviendra pas. Donc Kia est de nouveau dévorée par la solitude, solitude avec un grand S, puisque c'est la principale chose qui accompagne Kia tout le long du livre. L'enfance laisse place à l'adolescence, et sa dépendance envers le marais, avec quoi elle a un lien indéfectible, ne tarit pas. La solitude devient si pesante qu'elle finit par se rapprocher d'un jeune homme qui s'appelle Chase, qu'elle connaît depuis l'enfance. Charismatique, il est très apprécié de la ville et a un côté plutôt volage, je le précise parce que ça a un impact en fait dans l'histoire. Donc une relation se noue entre eux, qu'il préférera forcément garder secrète parce qu'il a peur des candidats de la ville. Et cette relation va durer plusieurs années jusqu'à ce que son corps soit retrouvé en 1969 dans le Marais. C'est d'ailleurs le commencement du roman. Donc je n'ai pas vraiment spoilé. Donc en fait, le roman alterne entre les jeunes années et l'évolution de Kia, donc à partir de 1952, à cette enquête policière en 1969. Donc deux adolescents trouvent le corps de Chase dans le Marais, sous la tour de guet. La police enquête, et se dirige progressivement vers un meurtre. Et évidemment, tous les soupçons vont converger vers Kia, puisque déjà elle inspire la peur aux habitants. Elle connaît le Marais comme sa poche, et évidemment, les rumeurs de la population locale influencent sur l'enquête. Donc en fait, le roman se conclut sur un procès qui va mettre Kia face à l'intolérance de la ville et de l'espèce humaine. Donc ce livre est la première fiction de Delia Owens, qui est une zoologiste et qui a passé 10 ans à travailler sur ce roman. Donc le livre est bien documenté et très détaillé, et le Marais est si bien décrit qu'on s'y croirait presque. Et d'ailleurs, le Marais est un personnage mystique à part entière de ce livre, puisqu'il communique, il joue un rôle dans l'histoire, mais aussi dans la mort de Chase, puisqu'il va compliquer l'enquête en effaçant les traces, etc. Hormis la couverture française magnifique, il y a aussi ce titre qui est plutôt intriguant, « Là où chantent les écrevisses ». En fait, c'est une expression que disait la mère de l'auteur, puisqu'elle lui disait « Va te perdre loin dans la forêt, où le silence et la paix règnent, et écoute ce que la nature a à te dire ». En fait, l'auteur voulait montrer avec ce titre qu'il faut savoir écouter son environnement. Donc Delia Owens réussit à nous toucher à travers une écriture poétique et un personnage indépendant, mais sensible, tout en nous apportant des connaissances sur la nature qui entoure Kia. Ce livre traite évidemment de survivalisme, mais aussi beaucoup du rejet et de l'intolérance des autres. Et c'est aussi un roman féministe, car Kia mène sa barque seule, elle n'attend l'aide de personne et surtout pas des hommes. Ce livre m'a aussi un peu fait penser à My Absolute Darling aux éditions Gallmeister. Il y a cette même ambiance et ces mêmes thèmes abordés comme l'indépendance, le survivalisme et une famille à problème. Donc ce livre est une véritable ode à la nature et il est déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Et il est d'ailleurs en cours d'adaptation cinématographique par Reese Witherspoon et il sortira en 2022, ce qui laisse le temps de lire ce magnifique roman.
Deux chroniques de la bibliothèque municipale de Tours dans cette méridienne, là où chantent les écrevisses, un roman de Delia Owens à retrouver au Seuil, et une chronique BD, Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie à retrouver aux éditions Delcourt. Vous pouvez évidemment emprunter ces ouvrages dans le réseau des bibliothèques municipales de la ville de Tours. Merci à nos chroniqueurs médiathécaires pour toutes ces fabuleuses chroniques que vous retrouverez sur notre site, évidemment, en podcast. Cette méridienne touche déjà à sa fin. Je remercie à nouveau mes invités du jour, 3 membres du service de santé universitaire de l'Université de Tours, Farid Bouassoun, Axel Missud et Tony Gendron. Je salue au passage mon collègue Sébastien Jacquelin qui, aujourd'hui, figurez-vous, chers auditeurs, est en atelier radio toute la journée au Collège du Réflessoir à Bléré. Je salue aussi Julien Poirot, notre service civique surmotivé qui, malgré la fin de sa mission, continue à vous proposer la quotidienne Sortez. Et c'est jeudi, si vous le souhaitez, c'est Ravioli, mais c'est aussi cinéma. Rendez-vous ce soir à 19h pour l'émission Plan Séquence, suivie de l'émission Reggae Stories en direct du Teuteux. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes. Et on se quitte en écoutant Cathy Berberian, fantastique voix qui va nous chanter Help, cette chanson bien connue de Lennon et McCartney. Excellente journée à tous.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do. so many ways. My independence seems to vanish in a haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I never have done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?